vraiment interpellé en travers la prière pour le message de ce matin. Je m'en allais dans une autre direction, mais j'ai changé mes plans. Je crois que c'est une... Si l'Église veut connaître, une explosion ou grandir, aller encore plus loin, je crois que l'unité dans la véritable amitié est importante. Et je pense que c'est le sujet que je veux faire une partie pour 2025, que 2025, en travers ce message, soit une source d'encouragement pour aller plus loin, en travers nos vies personnelles, en travers la vie des autres, parce qu'on a tous besoin des uns des autres. Combien sont d'accord? J'ai besoin de l'autre et vous avez besoin de l'autre. Donc, on est appelé à être un ensemble. Et donc, ce matin, je veux parler de ce sujet, l'unité dans la véritable amitié. Donc, si vous avez votre Bible ou PowerPoint, on va regarder 1 Samuel, chapitre 18. On va lire le verset 1. Je veux remercier les musiciens aussi ce matin. Merci pour votre louange, votre adoration. C'était vraiment bon. Prenez-la, votre liberté, c'est bon, c'est là qu'on voit les choses, l'Esprit de Dieu se manifester dans la louange, dans l'adoration. Merci, j'apprécie beaucoup ce temps-là. Moi, j'aime la louange, j'aime l'adoration. Fait que louer et adorer, c'est bon, ça dégage le cœur. Alléluia, on rentre dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, les musiciens, Solange et tout ça. Fait que gloire à Dieu. OK, lisons maintenant 1 Samuel 18, verset 1. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aimait comme lui-même. Seigneur, on veut te dire merci ce matin pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu fais les choses que nous, on ne voit pas. Toi, tu agis de la façon que nous, on n'agit pas. Seigneur, il n'y a rien que tu fais comme nous, on peut faire. Mais ce matin, on sait que tu peux faire encore la différence. À travers ce message, à travers l'encouragement, je pourrais dire, de ce message, Père, parle-nous, fais-nous du bien, encourage-nous, fais-nous réaliser l'importance, Seigneur, de l'unité dans l'amour. Seigneur, je te prie que la parole, Seigneur, qui est donnée, puisse nous faire du bien, puisse nous encourager, nous fortifier. Seigneur, remporte la guérison, même les délivrances qu'ils ont besoin. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Et ce matin, merci pour tout ce que tu fais et merci pour la grâce pour chacun de nous. Père, dans le nom de Jésus, amen et amen. Vous savez, dans ce texte, après la victoire de David sur Goliath, le roi Saül a décidé d'inviter David à sa table pour manger. Puis une fois qu'ils ont mangé, une fois que la réunion était terminée, je pourrais dire, David, une fois qu'il a fini, Saül, avec sa discussion avec lui, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Jonathan était, vous savez, l'ombre de David. Jonathan était le fils du roi. Il aurait pu être jaloux comme David, même se sentir menacé par David et même perdre ses privilèges face à David. C'est David qui a tué Goliath. David, vous savez, c'est un homme qui était courageux. C'est un homme qui était rempli d'espoir pour Israël. Et tout ce qu'il a fait, ça remplit le cœur de Jonathan. Il aurait pu être jaloux, il aurait pu être dans la crainte, mais Jonathan aurait pu même se sentir menacé de son poste. Non, au lieu de cela, Jonathan voit David comme un homme courageux, comme un vrai homme, un homme qui est venu, que Israël avait de besoin. Et à cela, Jonathan a plu à David. Son cœur à Jonathan était content d'avoir un homme qui a pris la cause d'Israël. David a démontré son attachement avec Israël en battant le Goliath et les Philistins. Et Jonathan a vu en David un homme de cœur, a vu un guerrier, un combattant, un homme d'audace pour son peuple. David a été un exemple pour Jonathan. Ça a touché le cœur de Jonathan et ça l'a créé des liens d'amitié au point qu'ils vont même conclure une alliance, on va le voir tantôt. Et l'amitié de David fut pour Jonathan, ce fut le résultat de la grâce de Dieu. Écoutez bien, la grâce de Dieu doit nous unir et non nous diviser. J'ai rien entendu. La grâce de Dieu doit nous unir et non nous diviser. On doit se réjouir du bonheur des autres, d'être heureux pour les autres. Donc, des gens qui servent, qui donnent leur temps, qui apportent leurs dons, qui apportent leurs talents et qui les mettent au profit de l'Assemblée. Donc, on doit être heureux de voir ces choses-là. Alléluia, on n'est pas en compétition. Comme Jonathan qui se réjouit de voir David prendre la place. Des hommes, on a besoin des hommes et des femmes qui sont des guerriers et des guerrières, des serviteurs et des servantes de l'Éternel qui emportent la contribution pour servir le corps de Christ. Jonathan ne vivait pas dans la compétition, il ne vivait pas non plus dans la méprisante. Au contraire, il va commencer à valoriser David. La grâce de Dieu, elle nous unit, il nous unit dans un même cœur, dans un même âme, dans une même pensée pour devenir un. Ça, c'est l'Église. Combien le croient qu'on doit devenir un ensemble? Est-ce que c'est la véritable Église? C'est ça qu'on voyait au début avec les actes. Ils étaient un ensemble. Ça nous pousse à nous aimer et on voit sûrement les défauts des autres. On voit aussi les qualités des autres. Même l'apôtre Paul cite dans Galates, chapitre 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ensemble, pas seuls, mais dans l'unité, pratiquons le bien, l'amour, l'entraide et l'encouragement. » Combien ont besoin de se sentir encouragés? Ça fait du bien de se sentir encouragé. Tous ont besoin de se sentir qu'il y a de la valeur, que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui contribue à quelque chose. Tu ne peux pas marcher seul, c'est impossible, tu as besoin des autres. On est unique à notre façon et chacun apporte sa contribution pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu a déposé dans nos cœurs, par notre nouvelle naissance, l'amour premier, Romains 5. Cet amour, elle nous unit dans un seul but, de s'entraider et de développer l'amour au milieu de nous. Il n'y a pas de plus grand que l'amour. Si l'amour n'est pas là, on passe à côté de notre mission. Si l'amour n'est pas présent entre vous, ça ne marche pas. C'est l'amour qui nous unit. Allô? Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, là, on s'entend, là. Mais Dieu nous unit pour créer l'unité. L'Église, c'est le lieu de notre formation. Le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Dans une communauté, je pourrais dire, dans une famille, nous sommes uniques. Nous ne sommes pas des clones. Je ne suis pas le clone de un, puis je ne suis pas le clone de l'autre, j'ai ma personnalité. Vous avez vos personnalités. On a nos caractères, on a nos dons, on a nos appels, on a nos attitudes, soit nos capacités également. Ça veut dire qu'on devrait travailler à travers tout cela dans l'unité les uns les autres, dans chacun de nos appels et dans chacun de nos forces. Vous savez, j'ai pris l'exemple d'une bicycle, une bicyclette, et si la bicyclette, pendant que vous allez vous pédaler, donc, si la chaîne débarque du dérailleur, ben vous allez pédaler dans le vide. Est-ce que c'est vrai? Tu auras beau pédaler, mais la chaîne n'est plus là. Donc, de là vient l'unité entre nous, soit de travailler ensemble, de mettre la chaîne sur le dérailleur pour recommencer à pédaler, pour continuer à pédaler dans la même direction, pour remettre l'unité et l'amour ensemble. Et puis ça, le psaume 133, verset 1, cantique démontique de David, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » Donc, le Seigneur souhaite nous apprendre à vivre ensemble. Je crois la reconstitution d'une Église ou la force que l'Église va reprendre son envol, c'est d'être un ensemble. Et mon cœur pour vous, pour 2025, c'est qu'on reprenne l'élan. Un élan qui était là dans le passé, qui est peut-être perdu à cause certaine. Mais est-ce qu'on peut reprendre un élan? Combien croient que Dieu veut rajouter à l'Église? Combien croient que les gens vont venir ici, vont se sentir aimés et non jugés? Combien croient que Dieu veut rebâtir sur la fondation de l'amour? 2025, mon but, c'est de voir l'Église reprendre la pédale, je pourrais dire, pour pédaler ensemble. Si ça a déraillé, on va se donner la main pour remettre la chaîne, pour repartir de nouveau. Le Seigneur souhaite qu'on vive ensemble. Vous savez, qu'on fraternise ensemble. La vraie fraternisation va au-delà du culte du dimanche matin. On est là pour écouter l'autre, d'apporter le réconfort à l'autre, d'apporter notre aide à l'autre, pas juste à ceux que tu aimes. L'humilité, elle a la place dans l'Église. Des amis aiment se retrouver vraiment ensemble. J'ai lu quelque chose d'intéressant. Il y a quelques années, je l'avais pris en note parce que ça m'avait vraiment... parler, il y a une église qui a fait un sondage dans leur propre corps, dans leur propre église, et ils ont posé une question dans le sondage. Ils disent « Pourquoi adhérez-vous à cette église? » Et 93% des membres ont dit « À cause du pasteur. » Ensuite, ils ont posé une autre question. Et si le pasteur s'en allait, partiriez-vous de l'église? 93% des gens ont dit non. Et quand les gens ont répondu à cette question, ils disent « Pourquoi vous ne partiriez pas de votre assemblée? » Ils ont répondu « Parce que mes amis sont ici. » Wow! C'est quand même très intéressant comme ligne de pensée. Vous savez, des vrais amis, ça développe des liens d'amitié et d'attachement ensemble. L'amitié, c'est des sentiments de sincérité, c'est de l'affection, c'est du respect pour l'autre. L'amour démontre l'importance pour l'autre. Il y a de la valeur humaine qui doit se transmettre. Et surtout, des bonnes ententes entre les personnes. Sinon, ben, on passe par le pardon. Et c'est dur dans une église de piler sur l'orgueil et aller voir son frère et dire « Excuse-moi, je t'ai blessé. » Allô? Soyons honnêtes un matin. Disons les vraies choses, là. Il faut y arriver. Si on veut créer l'unité, on n'a pas le choix. Évitons de se blesser. Ça arrive, mais si on passe par le pardon, on peut régler ces choses-là. Vous savez, quand on se blesse, on détruit la confiance envers les autres. Des amis, c'est fait pour s'entraider, s'encourager, s'écouter, se donner de bons conseils, se protéger. Dieu savait que David avait besoin d'un ami. Donc, David, après la grande attaque, la grande victoire, David était pour passer des temps extrêmement difficiles et Dieu lui a donné un ami, David. Et c'est là qu'on a besoin de nos amis. Et dans la vie, les vrais amis sont rares. Allô? Avez-vous vraiment des vrais bons amis? C'est des perles rares. Des vrais amis, je dirais, même dans les églises, c'est en voie de disparition. Mais Dieu permet à David d'avoir un vrai ami. Jonathan et David sont tellement appréciés qu'ils vont faire une alliance. 1 Samuel 18, verset 3, Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Donc, ils ont pris un engagement de rester ensemble, amis, peu importe qu'est-ce qui arrive, sans se juger et sans se condamner. On évite, nous, avec ça, hein? Disons des vraies choses, là. Les vrais amis, c'est des perles rares. J'aimerais regarder avec vous ce matin deux différentes relations entre vous et envers les autres. Premièrement, j'aimerais regarder le premier point, la première expérience. Un ami intime est prêt à se sacrifier pour l'autre. Un vrai ami n'a pas besoin de supplier longtemps une personne pour qu'il accorde son aide. Et la première chose que Jonathan va faire avec David, 1 Samuel 18, verset 4, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan a voulu donner quelque chose à David. Écoutez bien, une chose qui lui appartenait. Une chose qui avait de la valeur à ses yeux. Il lui donne son manteau, il lui donne son épée, il lui donne son arc, sa ceinture. Il lui donne une partie, je dirais, de lui-même. Ce sont ses armes de combat personnelles qu'il donne. Jonathan reconnaît à David un guerrier qui travaille pour la cause d'Israël. Il est content de voir les hommes de Dieu se lever pour sa patrie. Écoute, il dit, David, tu es digne de recevoir mes armes. Je te donne la main d'association. Un jour, un homme, où je séjournais en Europe, parce que j'ai beaucoup tourné là-bas, il y a un homme de Dieu, je vendais mes CD, des prédications que je fais, et cet homme est venu noir, il dit, Serge, j'ai dit, laisse-moi t'aider. Il dit, tu veux m'aider comment? Il dit, je vais tout acheter tes CD, je vais tous les enregistrer, puis tu garderas l'argent que tu vends. Cet homme m'a donné une main d'association parce qu'il croyait en ce que je faisais. Il désirait me voir aller plus loin dans le ministère. Il m'a donné cette main d'association, comme Jean, comme Pierre, comme Jean, qui ont donné une main d'association avec Paul et Barnabas. Lisons ensemble, Galates 2:9. « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. » Donc, Jacques, Pierre, Jean ont reconnu Paul et Barnabas, des ouvriers, pour proclamer la parole de Dieu. Vous savez, ils sont donné cette main d'association. Et j'aimerais juste un peu d'histoire. Au Moyen-Orient, à l'époque, ce geste constituait, je vous dirais, un vœu solennel d'amitié, un marque d'appartenance. Je te donne une main d'association. Je reconnais ton travail. Nous avons besoin, en tant qu'Église, pour 2025, c'est ma prière pour vous, de reconnaître les serviteurs et les servantes de Dieu que Dieu donne à votre Église. Vous avez besoin de les reconnaître. Il ne faut pas mépriser les ministères. Ministère soit homme ou ministère soit femme. L'Église doit travailler ensemble dans les gens qui investissent pour votre bien. Surtout, dans l'Église, c'est beaucoup de bénévolat. Est-ce que c'est vrai? Je pense que pas personne qui a un salaire pour faire du ministère ici, là. Peut-être moi, là, mais chut. Comprenez? On est tous bénévoles à quelque part quand vous faites quelque chose. Je dirais, monsieur et madame, soyez heureux des avoir. Ne les tuez pas, s'il vous plaît. Valorisez-les, encouragez-les, priez pour eux. Devenez un aide pour eux. Faire avancer le royaume de Dieu, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les membres. Tous ont leur utilité commune. Soyons reconnaissants pour ceux qui dédient leur temps. Soyez fiers d'eux. Dites-leur comment ils sont une source de bénédiction. C'est silencieux. Ça fait du bien, je vous le dis, ça fait du bien de se sentir encouragé. L'autre gros problème, c'est on dirait que parce que les gens font du ministère dans l'Église, c'est des acquis. Non, c'est pas des acquis. C'est des gens qui le font volontairement parce qu'ils veulent le faire. Puis ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, me critiquez-la pas. Allô? Aidez-les, soyez contents. C'est une grâce qu'ils vous font. C'est un investissement qu'ils font. Ils prennent leur temps, tout ça. Il y a beaucoup de sacrifices. La reconnaissance a sa place dans l'Église. Jonathan dit, je te reçois comme un frère, comme un ami, comme un compagnon d'œuvre. Nous avons ici une belle complicité qui est en train de se faire. Jonathan est prêt à aider David et il délaisse ses désirs personnels. Il donne des choses personnelles parce qu'il croit à David. Philippiens 2, versets 4 et 5, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, » qu'est-ce qui est écrit après? Qu'est-ce qui est écrit? « Considère aussi ceux des autres. » Ce que Paul nous dit, arrête de regarder juste à toi-même. Considère les autres aussi. Ils ont aussi des choses à partager. C'est beaucoup plus facile de critiquer que de s'investir. Hello. On évite sa gâchette, hein? Donc, si tu critiques, tu n'es pas content, prends la place, on va le faire. Tu vas voir les heures qui me mettent de temps pour préparer une prédication, ça ne se prépare pas dans deux secondes, là. Le temps qu'ils vont mettre dans la musique, ça ne se prépare pas dans deux secondes. L'école dit ça. Peu importe. L'amour, elle va se donner. Jésus s'est donné à la croix volontairement pour nous. Porter les sentiments de Jésus-Christ, c'est s'abandonner pour les autres. Et il a été serviteur de tous. Il a même lavé les pieds des autres, de ses disciples, pour démontrer comment qu'il était un bon serviteur. L'amour ne recherche pas ses propres intérêts. Paul recommande d'ailleurs une application particulière. 1 Corinthiens 10, 24, que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt. Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La terre ne tourne pas autour de Serge. La terre ne tourne pas autour de nous. La terre tourne autour de Jésus-Christ et sa parole. Portons attention aux autres. Cela, ça démontre du respect pour les autres. Jonathan portait du respect pour David. Aucune rivalité, juste de l'amitié, juste de l'humilité. Jonathan a été humble avec David. Il ne regardait pas ses propres intérêts, même s'il était le fils du roi. Pourtant, Jonathan aura pu craindre de tout perdre. Non, Jonathan a montré de l'affection pour David, pour ses actions, en lui donnant ses armes personnelles. Alléluia! Donc, il n'a pas eu peur de passer deuxième. Laissez-moi vous dire, deuxièmement, un ami loyal défend les autres. Un ami sincère ne se retourne pas le dos pour critiquer l'autre. Je veux rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je ressens ou que je ressentais en préparant le message? Je disais, Seigneur, donne-moi une image. Je voyais comme une image que j'ai déjà vécue il y a quelques années. Vous savez, quand on dit on va tirer l'Église, là, tu sais, là, c'est lourd, c'est pénible. Quand on ne travaille pas ensemble, c'est lourd et c'est pénible. Mais si on travaille ensemble, ça va être beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Un ami sincère ne retourne pas le dos à critiquer l'autre. Je m'en souviens au début du ministère. Je veux dire avec humilité, à matin, il y avait toujours un petit noyau de gens qui se réunaient, puis on était le pasteur aussi. Ah, oh, il n'a pas aimé le pasteur à matin. Ah, oh, le pasteur ne m'a pas regardé à matin. Qu'est-ce que tu penses de sa prédication à matin? Tu ne penses pas qu'il n'était pas correct à matin? Tu sais, le pasteur aussi. Écoutez, je vais aller encore plus loin, parce qu'on a vécu, on vieillit aussi en âge, là. Je dirais en toute honnêteté également, on a tous besoin de maturer dans la grâce de Dieu. Tous ont besoin de passer à un moment donné ou un autre, au pardon à travers les autres. Je suis plus que convaincu encore un matin, nous avons tous besoin, à quelque part, de se pardonner des mauvaises paroles qu'on s'est dit les uns les autres. On vous parle-tu un petit peu? On a tous dit des choses parfois qui peuvent être désagréables les uns des autres. Mais il faut changer notre mentalité. Il faut changer. Moi, je suis dans des processus, vous êtes dans des processus, mais il faut arriver à un processus de changement. 1 Samuel, chapitre 19, versets 4 et 5. Jonathan parlait favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne pèche pas contre le serviteur David, car il a été sans péché envers toi. Au contraire, il a fait très bien, agi envers toi. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, tu t'en réjouis. Pourquoi pécherais-je? En versant le sang d'un innocent, il ferait-tu mourir David sans raison? Jonathan dit à son père, « Écoute, père, pourquoi tu voudrais tuer Jonathan? David, c'est-à-dire, pourquoi tu voudrais le tuer? C'est un aide, c'est quelqu'un de précieux, c'est quelqu'un qui est venu nous aider. David, il n'a pas péché contre toi. Il a ta défense. Il t'a fait confiance. Il a pris pour la cause d'Israël. Le roi est jaloux de David. Il se sent menacé par la réussite de David. La jalousie également dans l'Église, ça peut être des sentiments de méfiance et de ressentiment provoqués par la perception d'une menace de perdre quelque chose. Je vous dirais que la jalousie peut engendrer des émotions intenses et parfois très négatives. Pour le roi Saül, il craint de perdre sa royauté avec David. Il n'est pas dans la sécurité de son appel. J'aimerais dire également, si le Seigneur vous a placé dans un appel ici à l'Église, si Dieu vous a appelé à quelque chose, reste sécure en Dieu, parce que l'appel vient pas de l'homme, l'appel vient de Dieu. Et ton assurance n'est pas en toi, ton assurance est en ton Sauveur. C'est en lui que tu dois puiser ta force pour le servir, pour que tu sois dans la paix. Toi, reste calme dans ton appel, sers le Seigneur avec joie et avec zèle. C'est au Seigneur que tu auras à rendre des comptes, non pas à l'homme. Vis pas dans la crainte de l'homme, mais vis dans la crainte de ton Dieu pour faire le service que Dieu te demande de faire. Et si les gens ne sont pas contents, mais qu'ils t'accordent, c'est tout. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Continue le travail que Dieu te demande à faire. Voyez-vous, on est en train de changer un peu la mentalité des choses, là. On a besoin de savoir qui nous sommes en Christ. Ton assurance, tu as besoin de le savoir. Si tu sens, Dieu a mis un appel, mais serre-le dans ton appel et sois fier de le faire. On vous dire une affaire honnêtement, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a 90 ou 95 des gens sont contents avec toi, tu as déjà une bonne partie avec toi. Jonathan a eu le courage de défendre son ami parce que son père veut tuer David. Jonathan a su parler au cœur de son père. Il a été un bon intermédiaire envers son père. Un ami, il ne l'a pas trahi. Il n'a pas parlé mal contre David. Au contraire, il a aidé son ami à protéger. Il a parlé en bien de son ami. Jonathan a pleinement confiance en David. Il voit le potentiel, le leadership, son appel. Il ne veut pas perdre son amitié avec David. Moi, j'ai des amitiés que je ne veux pas perdre dans ma vie. Pour vous, il y a des amis que je ne veux pas perdre, c'est point à la ligne, qui me disent n'importe quoi, je vais prendre sa défense. C'est un ami. Je ne peux pas me planter comme ça, là. Allô? La véritable amitié, c'est protéger son ami. Jonathan a pris les bonnes dispositions pour parler en bien de David. Il voit le potentiel, il le voit même comme le futur roi d'Israël. Jonathan, en protégeant David, en parlant en bien de David, ça ferme les portes de l'enfer contre la destruction de l'Église de Jésus-Christ. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de briser et de diviser. Mais parler en bien, tu fermes la boîte à ton ennemi. Jacques 3, verset 3 et 5, Jacques 3, 3 et 5, « Si nous mettons des morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. De même, la langue, un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue, si petite soit-elle, peut faire bien des dégâts. Mais si nous ne contrôlons pas nos pensées et nos mots, nous allons briser. Nous allons faire quelque chose de méchant, mais si on apprend à peser nos mots, nous allons en tirer de grands bénéfices. Tu vas garder le contrôle de tes émotions, puis ça arrive que la chaîne débarque. Allô? En tout cas, je ne sais pas si c'est pour vous, là. Moi, je ne me sens pas parfait non plus, mais il faut régler les situations. Sinon, si tu continues, ta langue peut faire bien du dégât dans l'Église. Allô? La sagesse doit retenir les mauvaises paroles. Le cœur de David bénit la vie de David, de Jonathan. C'est une source. Vous savez, quand vous parlez en bien de quelqu'un, c'est une source de bénédiction pour le frère et la sœur. Personne n'est parfait, tout le monde est d'accord. Mais quand nous parlons en bien des gens, nos cœurs sont purs et nos cœurs sont dans la paix les uns avec les autres. Tu n'as rien à te reprocher. On peut les regarder droit dans les yeux. Puis tu n'as pas de remords de ce que c'est dit. Moi, c'est pour ça que je dis, quand je donne la main à quelqu'un, puis il se tourne la tête, il dit, je te bénis, mon frère, regarde-moi. C'est moi que tu bénis, là. C'est pas l'autre, là. L'amour, c'est la protection du bien pour le corps. Souvenez-vous de ce récit, je veux parler quelques minutes de ce récit. Paul et Barnabas, qui ont pris la défense de Jean-Marc. Il y a eu un grand désaccord entre les deux hommes de Dieu, et tout va commencer lors du premier voyage avec Paul, Barnabas et Jean-Marc. Paul et Barnabas partent en mission avec Jean-Marc, qui va bien à la progression spirituelle, et donc ils ont décidé de l'emmener avec lui en voyage. Et donc, Jean-Marc va devenir extrêmement utile pour eux. Ils vont emporter les vêtements, ils vont emporter les provisions, parce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va arriver en cours de route. Ils ne connaissent pas les contrées qu'ils vont aller. Et au départ, si vous faites le récit, vous allez voir, tout va bien. Mais ils vont traverser des grandes forêts, ça va être infesté de bestioles, ils vont tomber malades. Et à Paphos, Paul rencontre un faux prophète, Bar-Jésus, qui met de l'opposition avec Sergius Paulus. Et Paul prend position, l'homme devient aveugle. Et le jeune qui est là, qui voit tout ça, le jeune Jean-Marc, chauffe pas mal pour lui, il n'a pas trop d'expérience à travers le ministère. Pour lui, c'est chaud, donc il décide d'abandonner la mission parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un grand prix à payer. Jean-Marc est ébranlé. Jean-Marc ne s'attendait pas à des grandes choses comme ça. Donc, son rêve de devenir un grand évangéliste ou un grand missionnaire va s'arrêter là à cause des grandes difficultés. Donc, Jean-Marc se retire de l'expédition et à partir de ce moment-là, Paul et Barnabas continuent leur route. Paul se fait même lapider à l'Isse. Donc, c'était une mission qui était très compliquée. Paul est tombé malade également. Et ce fut un voyage glorieux, mais extrêmement difficile. Mais quelques temps plus tard, acte 15, verset 36 au verset 38, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils s'en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Paul estima de ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Le désir de Paul, c'est de retourner sur le terrain, de voir comment l'Église se comporte. Il dit « OK ». Barnabas dit « OK, Paul, on va y aller, c'est merveilleux, moi je suis d'accord avec toi, mais on va emporter Jean-Marc. » Et là, on va avoir la confrontation. Paul dit, il dit « Pas question que j'emmène avec moi Jean-Marc, pas question. » Barnabas, lui, c'est le contraire. Chacun est convaincu de leur affaire. Ici, Paul ne veut rien savoir de Jean-Marc, Paul ne veut pas lui laisser une seconde chance, et ça déplut à Barnabas, qui, lui, trouve Paul extrêmement dur de ne pas lui donner une deuxième chance. Barnabas veut protéger son jeune protégé. Barnabas aimerait que Paul lui accorde une chance. Barnabas, maintenant, c'est un ami, c'est un frère, c'est son cousin. Il va prendre position, il va plaider la cause pour son cousin. Il prend sa défense. Barnabas voyait l'occasion, rêvait de prendre Jean-Marc avec lui puis redonner confiance. Pour Barnabas, Jean-Marc, il a de l'avenir. C'est un homme de Dieu, c'est un appel qui est sur sa vie. Pour Paul, il dit, je ne veux pas placer ma confiance en lui. Il a tombé, il a trébuché. Sûrement, sur la pensée humaine, c'est logique. Vous allez dire, c'est rationnel. Comment je vais lui faire confiance? Et je ne peux pas lui faire confiance. Il nous a laissé tomber. Il n'est pas mature pour la maturité. Il n'est pas prêt à la mission. J'ai perdu confiance en lui. Mais Barnabas, c'est un ami. Il va plaider la cause pour Jean-Marc. Écoutez bien. Paul, il dit, c'est vrai que la première fois, Barnabas, c'est vrai la première fois qu'il nous a laissé tomber, mais c'était la dernière fois. Mais il dit, écoute, il est temps de réfléchir. Donne-lui sa chance. Il a l'étoffe d'un grand missionnaire. Barnabas ne veut pas délaisser Jean-Marc. Il est prêt à lui donner une deuxième chance. Paul, il dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un de mature qui va être capable de faire face à la persécution. Deux opinions très différentes. Lisons, acte 15, verset 39. Ce discernement fut assez vif pour être cause qu'ils ne se séparent les uns des autres. Et Barnabas prenait Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Malgré le désaccord complet de Paul, Barnabas ne laissera pas tomber son ami. Première grande leçon à retirer. Il va prendre le temps, sous sa tutelle, non de le juger, non de le critiquer, non le rejeter, mais il va le prendre en main pour le former. Malgré que Jean-Marc manque de maturité, Barnabas aime le jeune Jean-Marc. Il va le former pour la mission. Il a vu un potentiel, il a vu un appel sur sa vie. Romains 15, versets 1 et 2. « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas rechercher ce qu'il nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. » Pour Barnabas, il est prêt à supporter Jean-Marc. Barnabas ne recherche pas son propre intérêt. Barnabas désire être le mentor spirituel du jeune. Son but, c'est de former le jeune Jean-Marc. Il a laissé ses intérêts personnels, il a laissé l'homme de Dieu, le grand Paul, l'homme de Dieu qui a écrit le Nouveau Testament, qu'on pourrait dire. Il était prêt à laisser cet homme-là pour prendre engagement pour former le jeune Jean-Marc. Il a pris le temps de former le caractère, les attitudes et les comportements, et de bien l'enseigner sur la parole de Dieu, pour qu'un jour, qu'il ne répète pas les mêmes erreurs. Je vais aller plus loin. C'est un mentor, c'est un père spirituel. Pourquoi que Barnabas a fait ça? Comme Jonathan, il voyait le potentiel et l'appel de Dieu sur la vie de David, comme Barnabas voyait le potentiel et l'appel de Dieu sur la vie de Jean-Marc. Je vais aller encore plus loin. Ne jetons pas nos choux trop vite. Une chose qui est certaine, le temps arrange bien les choses. Si vous continuez dans le récit, il y aura réconciliation entre Paul et Barnabas. Même dans Colossiens 4, verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. » Paul présente Marc comme le cousin de Barnabas, comme quelqu'un de confiance. Paul a su faire confiance à Jean-Marc à cause de Barnabas. Et nous avons besoin dans l'Église des Barnabas. Nous avons besoin des gens d'encouragement dans l'Église. Nous avons besoin des Barnabas qui vont vous aider. Ne les tuez pas, mais aidez-les à se développer. Si tu es plus fort dans la foi, supporte-le. Si tu es plus grand dans ta foi, apprends-le à aimer. Apprends-le à le servir. Ne le juge pas, ne le critique pas, mais sois une main d'association avec lui pour aller plus loin avec lui. Paul reconnaît la véritable force de Barnabas en travers comment il l'a bâti. Et 2 Timothée 4, 11, « Lui est seul avec moi, prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Autant qu'il n'ait pas été utile, maintenant autant que Paul le voit comme utile. À cause de sa ténacité, à cause de sa plaidoirie, ici je donne raison à Barnabas. La patience, les conseils, et la formation qui a été donnée à Jean-Marc a été incroyable. Il a investi sa vie. Un ami sait reconnaître, je le dis haut et fort, la valeur et le potentiel en chacun de nous. Un ami sait reconnaître les valeurs et les potentiels en chacun de nous et il ne nous laisse pas tomber. Ça vous parle-tu un peu? Ne les critiquez pas, mais prends position pour ton ami. Ne tuez pas les gens avec nos langues. Un vrai ami est prêt à nous défendre et à prendre position pour nous. Autant que Paul et Barnabas ont évolué dans le ministère, les deux ont appris du passé. Et nous devons, comme Église, apprendre du passé. Allô? On n'est pas parfait, mais il y a toujours place à la réconciliation. Il y a toujours place à l'humilité. Il y aura toujours place pour être capable de trouver des solutions aux problèmes. On dit souvent, tout problème a une solution. Est-ce que c'est vrai? S'il y a un problème, une solution avec quelqu'un, bien, trouvons la solution pour trouver la personne pour aller bien après. Il sera toujours temps de faire place à la réconciliation. Écoutez bien, Jean-Marc, c'est lui qui écrit la deuxième lettre. Matthieu, Marc, la lettre de Marc, c'est ça qu'on lit là. C'est Marc qui écrit cette lettre-là. Autant que Paul n'avait pas confiance, maintenant Paul a de l'estime. Il dit « Amène-le avec toi, il va être fort utile pour m'aider. » Jean-Marc a grandi, a maturé et a exercé le ministère. Tout cela parce qu'un homme a cru en lui. Barnabas est devenu un ami, un père, un conseiller, un homme de patience qui a redonné confiance à Jean-Marc. Et nous avons besoin de gens qui vont redonner confiance aux autres. Je ne peux pas dire l'inverse, là. C'est la vérité, là. Je, tu, moi et vous, nous avons besoin d'encourager les autres. Devenez cette source d'inspiration. Devenons. Vous allez voir la culture, l'Église, qu'elle doit grandir. Le passé doit nous servir de leçon. Ça va toujours frotter. De toute façon, il y aura toujours du frottement. On ne sera pas capable d'éviter. Mais sois plus fort que ça. Amen. Redonne confiance aux gens. Alléluia. À cause de cela, Jean-Marc est devenu un homme solide dans la foi. Les plans de Dieu sont parfaits. Ne tuez pas le poussin dans l'œuf, je pourrais dire. Avant de juger, je vais terminer dans quelques secondes, avant de juger, de mettre des étiquettes plus glorieuses sur la vie des gens, vous ne savez pas si un jour, si cette personne ne viendra pas pour vous une bénédiction pour toi et pour le corps. Comme Jean-Marc, qui était une bénédiction pour le royaume de Dieu. Soyons des amis ce matin, des frères, des sœurs, qui vont apprendre à investir dans la vie des gens, qui vont se protéger, qui vont se défendre des critiques négatives. Moi, je prends engagement avec vous ce matin. Si j'entends quoi de mal, je vais dire, frère, on ne fait pas ça. Sœur, on ne fait pas ça. Allô? Combien sont prêts à faire cet engagement-là? On va se protéger. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, là. Je ne suis pas sûr, je vous dis, il ne manque pas de perfection. Qu'on va être assez mature pour comprendre que ça peut changer. L'unité commence quand on commence, écoutez bien, à se protéger les uns les autres, de parler bien les uns les autres. Cette grande amitié est appelée à se développer. Nous portons tous, premièrement, l'amour de Dieu dans nos vies. Nous avons tous reçu le salut par grâce en Jésus-Christ. Nous avons tous été adoptés par grâce en Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Vous portez même la justice de Dieu dans votre vie. Donc, ce matin, soyons des Jonathan et Barnabas. Personne n'est parfait, mais nous sommes appelés à nous aimer, à nous respecter et à parler bien des autres. Tous sommes appelés ce matin à grandir. Dans une vie chrétienne, personne ne fait exception à cela. Dernier verset. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui est le plus grand? L'amour. Pas facile d'aimer, hein? Pas facile, mais même ceux qui déguisent le plus, là, tu sais, celui qui te frotte le plus, là, tu sais, pas facile. Mais est-ce qu'on doit être plus fort que ça? Oui. Christ était plus fort que tout. On l'a crucifié à la croix. C'était l'amour parfait. On va se lever un matin. Je voulais vous emporter une réflexion pour 2025. Comment voyons-nous, c'est juste une première partie, mais comment voyons-nous notre année 2025? Est-ce que ça vous encourage? De parler des sujets comme ça ce matin, d'être vrai, dire les vraies choses, là, pas de cachette, là. Parlons le vrai terme chrétien. On a besoin de grandir, on n'a pas fini de grandir, et quand ça va être fini, on va partir. Quand on va être parfait, on va partir. Alléluia, on va se lever ensemble. J'aimerais ça emporter, que les musiciens puissent emporter un chant sur l'amour, sur l'unité. Je vous prends au pif encore, je sais, là, mais pardonnez-moi. Mais... d'emporter un chant sur l'amour, l'unité, d'aller voir ton frère, d'aller voir ta sœur. Il y a des choses à régler entre vous. Faites-le. On passe à autre chose. 2025, est-ce qu'on veut passer à autre chose? Combien veulent passer à autre chose? En tout cas, moi, je vais avancer pour 2025. C'est pas pour vos vies, mais pour la mienne. J'ai des buts, j'ai des projets. Mais on doit travailler dans la même unité, les uns avec les autres. On a besoin de vos bergers, vous avez besoin de vos prophètes, vous avez besoin de votre école du dimanche, vous avez besoin de tout le monde ensemble. Fait que moi, maintenant, mon message est simple. Aimez-vous, arrêtons de se graffiner les uns les autres.